France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Pour être honnête, je le savais pas trop, en tout cas j'avais oublié. Allez, c'était sûrement passé trop vite, je ne me souvenais plus que les pompiers étaient en grève, ils le sont depuis le 26 juin dernier. Une grève reconduite jusqu'au 31 octobre, qui a vu quand même quelques avancées intéressantes hier, on va en parler, puisque le sort du travail des pompiers est étroitement lié parfois à celui des urgences. Dès lors que c'est compliqué d'avoir un médecin, on fait le 18 et on le fait surtout pour un oui ou pour un non, on les sursollicite, ces hommes et ces femmes, pas beaucoup de femmes encore d'ailleurs, on les sursollicite beaucoup, on oublie aussi que les pompiers sont volontaires à une écrasante majorité. Les pompiers de métier représentent 16% de l'ensemble du métier. La crise des vocations est là. On dit partout qu'on les aime, on les trouve sympas, formidables, serviables. Ils sont caillassés ou insultés tous les jours. Ils voudraient que leur garde soit payée en heures de nuit et le risque mieux pris en compte aussi. Ou au moins comme certains de leurs camarades en uniforme. Pompier, c'est le métier que les enfants rêvent tous de faire, mais quand on le vit, c'est un métier qui veut surtout qu'on le considère mieux. On le dit à bas bruit, on essaiera d'y donner un peu de volume ce soir. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Guillaume, c'est vous qui commencez, soyez le bienvenu, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Guillaume.
Oui, dans un premier temps, moi, je voulais réagir par rapport au fait que l'on parle beaucoup des agressions envers les sapeurs-pompiers. Effectivement, il y a des agressions que l'on peut aujourd'hui quantifier par le biais de remontées, avec des dépôts de plaintes, etc., chose qui n'existait pas il y a quelques années. Notre ministre, qui ne nous entend pas depuis le mois de mars, a fini par entendre un petit peu quelque chose là, en nous donnant des caméras piétons pour endiguer ce réel fléau. Cependant, je suis pas persuadé que la caméra piéton puisse résoudre tous les problèmes, parce que une fois qu'on est en face d'un individu qui est violent, caméra ou pas caméra, il ira au bout de ce qu'il a envie de faire. Donc ça, effectivement, c'est le premier problème. Le second problème, et c'est celui qu'on parle peut-être le moins, et c'est pourtant celui qui nous touche le plus, nous sapeurs-pompiers, je pense que c'est la sursollicitation. La sursollicitation qui est liée à tout ce que vous avez pu dire en préambule. On est là pour pallier aux carences des autres services de l'État, que ce soit le SAMU quand ils n'ont pas d'ambulance privée à envoyer chez quelqu'un, ou à la police pour aller chercher une ivresse sur la voie publique. Tout ça, ce sont les pompiers aujourd'hui qui le font, et le ras-le-bol s'installe dans notre profession, parce que pendant qu'on fait ça, on ne fait pas le cœur même de notre métier.
Et c'est pas pour ça que vous avez signé. Guillaume, vous êtes pompier dans quel département, dans quelle ville, qu'on se fasse une idée?
Je suis pompier à Bordeaux.
D'accord, ok. Merci beaucoup pour cette entrée en matière et grâce à vous, on va pouvoir balayer les problèmes qui sont ceux des pompiers aujourd'hui pour répondre à vos questions, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Olivier Richefou est là. Bonsoir, monsieur Richefou.
Bonsoir.
Vous êtes président de la Conférence nationale des services départementaux d'incendie et de secours. Notamment, vous avez co-signé une tribune dans le journal du dimanche. C'était dimanche, on aura l'occasion d'en parler ensemble. André Goretti, vous êtes président de la Fédération autonome des sapeurs-pompiers. Pompier professionnel, premier syndicat du métier. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et on remercie nos amis de France Bleu Nice qui vous ont ouvert vos locaux puisque vous êtes là-bas. Je le dis, monsieur Richefou, si vous le permettez, vous êtes loin de votre micro. Voilà,
pardon,
si vous
comme
mieux, ça ira mieux. Votre collègue Guillaume, qui appelait à l'instant, balaye beaucoup de choses. D'abord, je voudrais revenir sur ce dont il parle, sur les fameuses sursollicitations. Effectivement, en gros, il y a toujours quelqu'un qui répond au 18, donc quand ça marche pas avec le 15, quand ça prend trop de temps, quand c'est difficile sur le SAMU, c'est vers vous qu'on se rabat. C'est ça que ça veut dire, ou est-ce que ça veut dire aussi tout et rien? Alors je caricature un peu avec le chat dans l'arbre, mais est-ce que c'est aussi ça le problème de la sursollicitation? Allez-y, monsieur Richefou.
Alors, je pensais que c'était monsieur Goretti qui, en tant que collègue, allait pouvoir intervenir sur ce point, mais je pense que votre auditeur a parfaitement raison. Le phénomène de ras-le-bol qui existe aujourd'hui chez les sapeurs-pompiers de France, il est lié au fait qu'ils ont le sentiment de ne pas accomplir leur métier dans de bonnes conditions. À cause de ces sollicitations qui sont trop nombreuses et inappropriées par rapport à l'engagement qui est
le leur. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est le cœur de métier du pompier, au fond? Je vous ai pas oublié, monsieur Goretti. Mais avant cela, le cœur du métier, c'est quoi? Normalement, un pompier, à part éteindre les incendies, il fait quoi?
C'est le secours d'urgence.
Ouais.
Et pas le secours social, et pas non plus le transport de personnes qui pourraient être transportées par d'autres. Et la difficulté actuelle que rencontrent nos amis sapeurs-pompiers, puisque les présidents de département président les structures de services départementaux d'incendie et de secours, c'est effectivement de constater une augmentation de cette pression opérationnelle qui n'est pas en lien avec la mission réelle des sapeurs-pompiers.
André Goretti, vous avez le sentiment d'avoir perdu votre corps de métier, finalement, ces dernières années ?
Complètement. Nous sommes la dernière réponse à la souffrance humaine, à la souffrance sociale. Nous assumons des missions qui relèvent des services de l'État, des missions régaliennes qui ne sont plus assumées par manque d'effectifs, par manque de moyens. Et aujourd'hui, elles doivent être assumées par un service qui, aujourd'hui, est le seul à répondre à chaque appel. Donc c'est une problématique de fond qui n'est pas entendue, non pas par le citoyen, mais qui n'est pas prise en charge par nos gouvernants et par nos employeurs, du fait tout simplement que nous sommes à mettre en avant un certain nombre de revendications qui portent notamment sur la sur-sollicitation avec de moins en moins en termes d'effectifs et qui conduisent à un ras-le-bol qui se généralise et je dirais même jusqu'à une radicalisation de mouvement tout simplement parce que nous sommes méprisés par ceux qui nous gouvernent et ceux qui nous emploient par l'absence de réponse à nos revendications qui sont portées aujourd'hui par plus de 85% de sapeurs-pompiers.
On va revenir aux réponses que vous avez. Moi, je voudrais, pour qu'on comprenne bien, je voudrais qu'on donne une image. Je vais quand même toucher du bois, si j'ai une crise cardiaque dans la rue, techniquement, est-ce que c'est vous qu'on appelle ? Est-ce que c'est le 18 qu'on doit faire en priorité ou un autre numéro ? À quel moment, si les choses étaient rangées dans le bon ordre, si je puis dire, à quel moment est-ce qu'on est censé vous appeler ? André Goretti ?
Dans le cadre de l'organisation aujourd'hui du secours, du service public de secours, il y a un problème de gestion de l'appel. Nous avons aujourd'hui une réception de l'appel en termes de réponse médicale du 15. Et vous avez également le 18, sauf que on a fait plus de publicité sur le 15 que sur le 18.
Et théoriquement, le 112, que très peu de gens savent qu'il existe, en fait.
Voilà, et le 112, bien évidemment. Lorsqu'il y a urgence vitale, lorsqu'il y a détresse vitale, le sapeur-pompier répond à la démarche. Aujourd'hui, le problème, c'est que nous assumons des missions qui ne relèvent pas des missions de sapeur-pompier. Ce qui veut dire aussi que lorsqu'un équipage est engagé, sur des manquements de la part des services de l'État, sur des transports de malades, sur des réponses qui ne sont pas adaptées. Ça veut dire que l'équipage qui est engagé ne peut pas répondre, parfois ne pourra pas répondre à une urgence vitale. Lorsque les personnels sont engagés sur une autre mission, ils ne sont pas présents en caserne pour pouvoir assumer une mission d'ordre vital.
Je vais vous reposer une autre question, Monsieur Goretti, en lien avec la question de Guillaume, parce qu'on en a beaucoup parlé aussi, on l'a beaucoup vu dans la presse, les fameuses caméras piétons. J'ai l'impression qu'on est partagé chez les pompiers entre ceux qui pensent qu'il pourrait y avoir une utilité effectivement et ceux qui pensent que, au contraire, en gros, ça risque de faire un peu flicage et que les gens vont le prendre encore plus mal. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ces caméras piétons ?
C'est à l'heure, tout simplement, parce que nous allons être dans l'obligation de signifier aux citoyens que nous allons allumer cette caméra et si la personne est violente, si la personne est malade psychologiquement ou psychiatriquement, elle va peut-être réagir d'une autre façon. Et peut-être que ça va peut-être aussi conduire à ce que les, entre guillemets, les sauvageants s'organisent autrement en camouflant leur visage et en organisant des guet-apens lorsque nous serons à intervenir dans les zones urbaines sensibles ou les zones prioritaires. Donc, je ne suis pas certain et loin du compte que la caméra puisse régler toutes les situations. Ça n'est pas un élément qui nous semble favorable pour traiter de la problématique. Il y a une forme d'irrespect. C'est une problématique de sociétale, de citoyenneté qui aujourd'hui conduit à ce que, parce que le sapeur-pompier porte l'uniforme et qu'il représente l'État, il est violenté par rapport à ce qu'il représente.
Incivilité sur tout ce qui fait État, c'est aussi ce que disent les policiers, c'est aussi ce que disent même d'ailleurs certains médecins et infirmiers. Olivier Richefou, sur l'idée, parce que ça fait son chemin avec la grève des urgences et les réponses qui ont été apportées, d'avoir un numéro qui permettrait de mieux faire circuler l'information et que effectivement, contrairement à ce que dit notre ami André Goretti, il y ait moins de pompiers sollicités pour des choses qui ne sont pas censées être de leur ressort. Est-ce que c'est une solution qui semble aller dans le bon sens pour vous ?
S'il suffisait d'une solution, ça se saurait, bien évidemment. Mais cette solution, elle est indispensable. Cela fait déjà plusieurs années que la France est isolée en étant un des seuls pays européens à ne pas utiliser ce numéro unique. Mais numéro unique veut dire que les appels arrivent à un seul endroit. Aujourd'hui, le 112 arrive dans 85% des cas chez les pompiers. il faudrait que ça soit sur la totalité des numéros, qu'effectivement ça soit le centre, un centre de traitement commun entre tous les acteurs qui puissent recevoir ces appels.
Et c'est fou quand même, comme ce 112, qui est un numéro effectivement théoriquement européen, personne ne sait qu'il existe en France, ou quasiment pas. Est-ce qu'on sait, on a un chiffre, on sait combien de gens composent réellement le 112?
Très peu.
Mais très, très peu, ça veut dire quoi?
Je n'ai pas d'idée précise.
C'est un appel sur 10 par rapport aux 18.
C'est moins que ça, parce qu'aucune communication n'est faite sur le 112.
Je sais que Guillaume voulait ajouter quelque chose. Guillaume, tant que vous êtes encore là, je vous en prie, allez-y.
Oui, ben ça tombe bien que l'on parle de ça, puisque on peut s'apercevoir au fil de l'actualité de ces derniers jours que Madame Buzyn a fait des annonces pour les urgences. Et comme vous le savez, on travaille en étroite collaboration finalement avec les urgences. Moins il y a de lits dans les urgences, moins il y a d'infirmières et d'infirmiers dans les urgences, et plus les sapeurs-pompiers attendent avec leurs victimes dans les urgences. Les annonces faites par Madame Buzyn, aujourd'hui, elles sont quoi? Elles sont juste pour désengorger les services d'urgence. Donc en mettant en œuvre une réponse téléphonique pour réorienter les gens qui appellent, pour les réorienter vers des maisons médicales, pour les réorienter vers des médecins. Or, c'est bien beau tout ça, mais qui est-ce qui va transporter ces gens? La vraie question pour moi, elle est là. Qui est-ce qui va transporter ces gens? Parce que ça, Madame Buzyn, elle n'en parle pas.
Et au fond, est-ce
Moi, j'ai ma petite idée. Ouais. Moi, j'ai ma petite idée. Moi, je sens bien que, puisque le SAMU n'est pas capable de mener à bien aujourd'hui ces missions-là, et que ce sont les pompiers qui le font, je vois bien que d'ici un an et demi, ce seront toujours les sapeurs-pompiers qui effectueront ces mêmes missions, et notre problème à nous ne sera pas réglé. Tant qu'il n'y aura pas une vraie coopération interministérielle entre l'intérieur et la santé, aujourd'hui, les problèmes des uns et des autres ne pourront pas être réglés.
Merci beaucoup, Guillaume. André Goretti, est-ce que vous, de votre côté, vous avez le même genre de crainte que celle de Guillaume? À la fin et au bout de la chaîne, vous serez toujours, vous, aussi sollicité?
Tout à fait, tout simplement, parce que si l'État ne met pas les moyens nécessaires pour que ces services puissent réaliser l'ensemble de ces missions, ça ne sera pas possible, et ça se fera au détriment des missions spécifiques sapeurs-pompiers. Le transport aujourd'hui de malades se fait déjà. Nous avons affaire à des situations où il faut transporter parce que rendez-vous chez un radiologue, parce que rendez-vous chez mon gynécologue, les gens nous attendent devant la porte avec leurs valises. Il y a un problème de fond, il y a un problème d'accompagnement. La réponse n'existe pas.
C'est fou parce qu'il y a aussi un problème d'image en fait au fond, Monsieur Goretti. Et j'allais presque dire que c'est positif pour vous, c'est-à-dire que je pense à cette petite dame que vous décrivez à l'instant qui attend parce qu'elle a rendez-vous chez le médecin et qu'elle se dit que ça ira plus vite en appelant les pompiers. C'est parce qu'elle sait que vous allez répondre. Alors on va pas vous suggérer de parler mal aux gens et d'être pas sympa avec eux pour évidemment arrêter ce genre de choses. Mais au fond, il y a ça aussi en fait. Vous avez encore, André Goretti, cette image-là. Cette image pardon de le dire comme ça, je vais mettre des guillemets, les gentils en uniforme, c'est toujours vous quand même, non?
Nous sommes appréciés par l'ensemble de la population. Nous sommes pour répondre à des besoins, mais faut-il pour autant que les moyens existent en termes d'effectifs? Alors c'est totalement contradictoire. D'un côté, nous sommes idolâtrés, je le dis entre guillemets,
idolâtrés par
la population, et de l'autre côté, nous sommes méprisés ou utilisés à des fins de communication par nos gouvernants et nos politiques et nos employeurs. Il y a un problème. Il y a un problème majeur par rapport à une situation qui est dénoncée. Nos gouvernants comme nos employeurs ne veulent pas entendre que le service public de secours français, il est malade. Ils ne veulent pas créer de réformes, de tables rondes, de discussions pour que l'on puisse poser, mettre à plat le fonctionnement aujourd'hui du service public de secours.
Olivier Richoux, avant qu'on retourne au standard, moi je trouve ça intéressant, ce paradoxe dont parle André Goretti. En effet, l'image du pompier est toujours intacte. Je le disais en lancement, les petits garçons, les petites filles veulent être pompiers quand ils sont tout petits. Mais néanmoins, effectivement, il y a au fond le sentiment qu'ils ont, c'est que puisqu'ils sont sympas, ils vont pas nous faire une grosse grève non plus, ils vont pas faire beaucoup de bruit et on s'en sortira comme ça en fait.
Je ne crois pas que ce soit le sentiment actuel. En revanche, ce qui est certain, c'est que les sapeurs-pompiers rendent un rôle indispensable. Mais nous ne sortirons pas de la situation actuelle sans une coopération avec les services de santé. Et donc, les annonces faites hier par Agnès Buzyn vont dans le bon sens. Moi, j'y suis favorable. Mais il ne faut pas que la santé décide avec la santé. Il faut que la santé décide et discute avec le ministre de l'Intérieur.
Vous, à cette discussion-là, vous n'êtes jamais associé.
Nous ne le sommes pas aujourd'hui.
Au sens large.
Et nous demandons à l'être. La solution, je partage ce qu'a dit André Goretti, bien évidemment, sur cette sursollicitation. Mais ce n'est pas en augmentant perpétuellement les effectifs des sapeurs-pompiers que nous allons résoudre cette difficulté. Cette difficulté, nous allons la résoudre en nous mettant autour de la table avec le service de santé, avec le service d'urgence. Et moi, je suis ravi qu'Agnès Buzyn ait annoncé ce délai de 2 mois pour qu'une réponse collective soit apportée. On ne réglera pas la situation des pompiers sans régler en même temps la situation des urgences à l'hôpital.
Et précisément, est-ce que vous avez la même crainte que celle d'André Goretti? C'est-à-dire qu'au bout de la chaîne, à la fin, il faudra bien de toute façon appeler quelqu'un. Donc si le dispatching se fait différemment, est-ce qu'au bout du compte, ce ne sera pas toujours le 18 qui paiera ces pots cassés-là?
C'est pour ça qu'il faut que l'ensemble des acteurs soient autour de la table, y compris dans un centre de traitement départemental de l'alerte, qui permet de mettre autour de la table tous les acteurs et de décider ensemble quel est celui qui doit partir.
Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue Mathieu, on vous écoute.
Écoutez, moi je voulais revenir sur ce que vous avez dit en préambule. Du coup, je fais un petit retour en arrière. C'était par rapport en fait au... Vous disiez que quand les gens appellent le 15 ou les autres services de secours et qu'ils n'ont pas d'interlocuteur, ils rebasculent vers les pompiers. Alors il faut savoir qu'en fait, de toute façon, dans tous les cas, dès l'instant que ce sera un appel sanitaire, tous les appels sont rebasculés automatiquement vers le 15. Mmh. C'est le 15 qui régule. Dès l'instant qu'il y a un appel sanitaire, c'est le 15 qui prend la décision d'envoyer un véhicule ou pas. Et dans la majeure partie des cas, d'envoyer le plus possible soit une ambulance du SAMU, soit une ambulance privée. Et effectivement, quand il y a besoin, un besoin immédiat et que les conditions ne sont pas forcément réunies avec les ambulances privées, on envoie les pompiers pour faire un transport par carence sanitaire. Donc de toute façon c'est ça en fait, obligatoirement tous les appels sont rebasculés vers le 15. Les gens quand ils appellent le 18, si c'est du sanitaire, ce sera régulé par un médecin, ce sera forcément régulé par le 15 derrière, c'est constamment
vous,
comme ça.
Vous faites quoi vous Mathieu? Vous êtes où sur la chaîne? Parce que je vois bien que vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez, vous êtes où sur cette chaîne-là?
Alors j'ai été pompier pendant plusieurs années, j'ai quitté l'institution et maintenant je continue à travailler dans le milieu du secours, on va dire au niveau d'un SAMU.
Et sans curiosité, parce que je sais qu'il y a parfois des problèmes de vocation dans ce métier-là, vous avez quitté les pompiers parce que vous aviez décidé de faire autre chose, ou est-ce qu'à un moment la question de votre vrai rôle en tant que pompier s'est posée?
Alors en fait, le pompier c'est un métier.
Ouais.
Et malheureusement, en fait, c'est un métier. On manque de professionnels en France, on manque de pompiers professionnels. Les volontaires, c'est important. C'est important pour les endroits où ce serait compliqué de mettre des pompiers professionnels puisqu'il n'y a pas forcément assez d'interventions. Enfin, ce serait pas possible. Mais on manque de professionnels. Mmh. C'est un vrai métier. C'est un métier. C'est-à-dire qu'il faut mettre des pompiers professionnels. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à votre collègue hors antenne. D'ailleurs, il y a un souci, je trouve, moi, au niveau du recrutement des sapeurs-pompiers en France. Un souci de quota. Alors, aucune connotation misogyne de ma part. Bien au contraire. La féminisation, ça c'est pareil, c'est un sujet que vous avez un petit peu abordé tout à l'heure, c'est ultra important, moi je suis complètement pour. Par contre là, ce que je trouve vraiment dommageable, c'est le fait qu'il y ait en gros deux concours différents. Lorsque vous êtes une femme, vous n'avez pas les mêmes épreuves qu'un pompier homme. Et je trouve que c'est dommageable pour le personnel féminin qui au final et d'y un peu discrédité discrédité, c'est...
Oui, non, je vois très bien ce que vous voulez dire, c'est une bonne question.
C'est un peu... Enfin, moi, je trouve pas ça normal, parce qu'au final, le métier est le même.
Et qu'à la fin, on demandera la même chose, de toute façon, à une femme qu'à un homme.
On demandera la même chose, c'est un peu une discrimination positive, avec un quota, il y a vraiment un quota de personnel féminin.
Donc, parce qu'on en manque, du coup, toujours, non, ou pas?
Ah, il y a quand même pas mal d'hommes...
Non, on va poser la question.
Mais ce que je trouve dommage, c'est que il y a deux concours différents, à la fin, le métier est le même. Et je suis pour qu'il y ait des femmes, hein, au contraire.
On a bien entendu votre question, et moi je trouve ça intéressant parce que j'ignorais en fait qu'il y avait deux concours différents. Ça va permettre à nos invités autour de la table d'échanger sur la question. Merci beaucoup Mathieu. André Goretti, deux choses. D'abord, on manque de pros, nous dit Mathieu. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez aussi? On va rappeler les chiffres, hein. En gros, 40 500 pompiers professionnels, c'est à peu près ça, sur une population de 250 000. C'est à peu près, on est autour de ces chiffres-là.
Oui, tout à fait, oui.
On manque de pros, vous êtes d'accord avec ça? Il faut mieux professionnaliser, plus professionnaliser, définitivement professionnaliser le métier de pompier ou pas?
Le contexte, il est très clair pour nos organisations syndicales représentatives d'accords de métier, de sapeurs-pompiers professionnels. Nous défendons dans l'esprit le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels. La construction aujourd'hui du service public de secours s'est faite dans d'autres conditions. Elle s'est faite au travers un volontariat d'abord, des sapeurs-pompiers d'abord, tout d'abord des sapeurs-pompiers bénévoles devenus sapeurs-pompiers volontaires qui aujourd'hui ne supplée plus, ne semble plus assumer des options de dire je viens à la caserne pour manœuvrer, je viens à la caserne pour assurer des départs. Aujourd'hui, nos employeurs utilisent les sapeurs-pompiers volontaires pour remplacer le sapeur-pompier professionnel. Mmh. C'est aujourd'hui l'utilisation qui en est faite dans grand nombre de départements. Et le système ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas utiliser le sapeur-pompier volontaire en lieu et place d'un sapeur-pompier professionnel et qu'il assure des gardes postées au même titre que les sapeurs-pompiers professionnels.
André Goretti, il y a cette autre partie dans la question de notre ami Mathieu que moi j'ignorais. Il y a deux concours séparés, femmes et hommes. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des missions qui sont remplies par les hommes et qui ne sont pas remplies par les femmes?
Non, c'est pas de cette manière. Aujourd'hui, les femmes représentent à peu près 15-16% de nos effectifs. C'est les barèmes qui sont différents dans le cadre de l'organisation du concours, les barèmes épreuves sportives.
D'accord. Okay.
L'écrit n'est pas différent, mais le barème épreuve sportive est différent.
Et ça veut dire que les missions aussi sont les mêmes. Quand on est une femme à la caserne ou un homme à la caserne, on va évidemment faire les mêmes choses.
Tout à fait.
Quelle que soit l'alerte qui est donnée.
Dans le cadre du port de la tenue, un sapeur-pompier reste un sapeur-pompier.
Merci beaucoup. Olivier Richou, je voudrais vous reposer la question sur la professionnalisation. Est-ce que l'une des clés, c'est plus professionnaliser ce métier qui est très particulier? En effet, il n'y en a pas d'autres où il y a aussi peu de professionnels par rapport à une grosse masse de volontaires.
Oui, c'est une particularité du système de sécurité civile français qui repose sur un complément et une bonne harmonie entre les sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers professionnels. Nous, les employeurs, nous considérons que c'est un bon équilibre, qu'il faut le garder, le conserver. Ce modèle fonctionne bien, il a fait ses preuves. En ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels, bien évidemment, chaque président de conseil d'administration de SDIS, lorsqu'il a le sentiment que pour répondre au nombre d'interventions nécessaires, il y a des besoins de recruter, eh bien, il va ouvrir des postes et recruter. Ce qui est certain aujourd'hui, on l'a entendu à travers votre dernier intervenant sur la question de la vocation.
Ouais, il y a une crise des vocations dans ce métier.
Il n'y a pas de crise de vocation parce que je crois qu'on a toujours cette attirance et cette reconnaissance pour le sapeur-pompier. Mais en revanche, lorsque on rentre dans la fonction, on peut quelquefois être déçu, justement parce qu'on n'effectue pas les missions.
Il y a une image d'épinal du métier de pompier, c'est ça que vous dites en fait.
Ouais. Mais surtout, la pratique est quelquefois différente de cette image d'épinal. Et je crois que l'avenir de la profession, c'est de se recentrer sur son cœur de métier et de cesser de faire ces interventions qui parasitent la profession.
Mais est-ce qu'on peut décréter qu'on cesse?
Non, il suffit simplement de discuter davantage et de se mettre d'accord avec nos amis du SAMU et nos amis ambulanciers pour mieux coordonner ces trois acteurs et faire en sorte que les pompiers interviennent dans leur cœur de métier. Et pour intervenir dans ce cœur de métier, on a suffisamment de pompiers professionnels aujourd'hui.
On a entendu, Olivier Richou, plusieurs fois que vous avez appelé ou émis l'idée qu'il fallait qu'on se parle plus entre santé et pompiers. Ce qu'il faut rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est que vous dépendez du ministère de l'Intérieur. Enfin, de vous. Les pompiers dépendent du ministère de l'Intérieur.
Tout à fait.
Et une autre particularité, ce sont payés, si je ne m'abuse, mais après ça descend évidemment de l'État, mais par département et commune. Donc au fond, votre seul interlocuteur, le seul interlocuteur des pompiers, c'est le ministère de l'Intérieur. Est-ce que jusqu'à présent, est-ce qu'on l'entend, le ministère de l'Intérieur ?
Ah oui, on rencontre le ministre de l'Intérieur régulièrement et il n'y a pas de difficulté, bien évidemment, avec un ministre de l'Intérieur qui, aujourd'hui, est très engagé sur ce dossier des sapeurs-pompiers. Ce que nous attendons, nous, c'est que les deux ministres se parlent davantage. Alors, ils doivent se parler, bien évidemment. Mais quand il y a un désaccord, il y a un Premier ministre et il y a un Président de la République. Mmh. Et moi, j'appelle le Président de la République et le Premier ministre à prendre des décisions fortes. Il s'est engagé, Emmanuel Macron, en tant que Président de la République, y compris pendant sa période électorale préalable, à faire en sorte que le 112 soit un numéro unique. Et donc, il faut que l'on progresse davantage. Et je crois qu'on a 2 mois pour se mettre d'accord tous ensemble sur une meilleure organisation des secours en France.
André Goretti, j'imagine que sur le fait que le dialogue existe avec le ministère de l'Intérieur, c'est un peu plus compliqué de votre côté, du côté de syndicats de pompiers. Vous avez le sentiment qu'on vous entend, vous, ou pas?
Nous inscrivons totalement en faux. Il n'y a pas de ministre de l'Intérieur aujourd'hui pour répondre aux problématiques que nous portons en termes de revendications. Je m'inscris également en faux sur la situation aujourd'hui de dire que les présidents de conseil d'administration pourrait envisager le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels. Ça n'est pas vrai. Aujourd'hui, ils préfèrent utiliser du sapeur-pompier volontaire en garde postée et suppléer au manque d'effectifs parce que tout simplement, il n'y a pas de charge patronale à assumer et que si le sapeur-pompier volontaire n'est pas d'accord avec ce qui lui est imposé en termes de fonctionnement, ben, il n'y a pas de, entre guillemets, de contractualisation vis-à-vis de sa situation professionnelle. Donc c'est un faux débat. Les présidents de SDIS aujourd'hui préfèrent réaliser des économies sur le plan masse salariale et assumer le complément des effectifs avec des sapeurs-pompiers volontaires. Mais ce fonctionnement a ses limites et les limites aujourd'hui on les a atteintes, mais ils ne veulent pas l'entendre.
Quand on parlait tout à l'heure de votre sursollicitation, cette question sur franceinter.fr, quand les pompiers sont sursollicités pour des interventions, pourquoi ne refusent-ils pas de les faire? J'imagine qu'on n'a pas le droit de refuser une intervention, de décider évidemment de ne pas partir, André Goretti.
Les conditions sont parfois particulières et compliquées. Effectivement, lorsque le SAMU, qui est le gestionnaire de l'engagement médical, nous exige un départ sur un malade ou autre, nous ne sommes pas à le refuser. Par contre, s'il n'y a pas d'effectifs, ce sera compliqué pour nous de pouvoir l'assumer. Donc les délais deviennent contraints, se prolongent, et on arrivera peut-être un jour à ce que, lorsqu'il y aura une détresse vitale, mais qu'il n'y aura pas de sapeurs-pompiers pour répondre à cette détresse vitale, tout simplement parce qu'ils seront engagés sur des missions qui ne relèvent pas de leur mission.
Sarah, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Puisqu'on est autour de ce fameux numéro, le 18, je vous écoute, allez-y.
Oui, en premier lieu, je voulais remercier les pompiers bénévoles et professionnels. Et ensuite, j'entendais toutes les sollicitations et j'étais un petit peu interloquée justement par ce côté abusif du citoyen qui se sert un petit peu du pompier comme finalement taxi avec une qualité de service irréprochable et qui a le bénéfice d'être gratuit pour le citoyen. Et donc je me demandais dans quelle mesure nous ne pouvions pas imposer une amende de la même façon que depuis que je suis petite, j'ai toujours vu dans le métro que si on tirait le signal d'alarme de façon non justifiée, on avait une amende, pareil dans le train, pareil, enfin, dans tous les autres moyens de transport. Il y a toujours une petite étiquette comme quoi, si on tire le signal d'alarme.
Comme quoi le lapin peut se faire pincer très fort et qu'il y a un signal d'alarme. Absolument, oui, vous avez bien raison.
On est la même génération. Donc voilà. Et je me suis demandé, quand j'entendais que les gens demandaient pour les pompiers, pour aller chez le médecin ou chez le gynéco, enfin n'importe, mais pour du service privé, pourquoi on ne pouvait pas appliquer cette règle-là?
Ça, c'est sûrement un peu complexe, mais c'est intéressant comme question, Sarah. Merci beaucoup.
Travailler peut-être dans les...
Olivier Richefou, évidemment que c'est très compliqué, mais c'est marrant cette idée de Sarah, parce qu'il y a plein d'appels qui arrivent, de messages mails qui disent, là par exemple ce monsieur qui dit, il se peut qu'un jour j'ai fait appel aux pompiers sans vraiment savoir quelles sont réellement leurs interventions, ou vraiment quelles sont leurs missions. Ici encore, les interventions, pourquoi ne pas refuser de les faire? Donc il y a finalement un vrai questionnement sur la réalité de la mission du pompier, toujours aujourd'hui en fait.
Oui, mais je crois que votre émission permet d'ailleurs sans doute d'éclairer davantage les auditeurs sur ce sujet. Mais ça veut dire simplement que si nous avions un numéro unique, quand vous composez le 112 et que vous expliquez la raison pour laquelle vous appelez, si l'explication que vous donnez ne nécessite pas de départ, eh bien il n'y aura pas de départ. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que la régulation, elle est médicale uniquement, et qu'il arrive au SAMU assez régulièrement, je l'ai pu le constater dans mon département, de quelquefois déclencher les sapeurs-pompiers sans qu'il y ait réellement de besoin. Par exemple, il y a un décès dans un domicile, il faut attendre qu'un médecin arrive pour constater le décès, eh bien il arrive qu'on appelle les sapeurs-pompiers pour faire la garde, si j'ose dire, devant le domicile. Ça n'a pas de sens.
Bonsoir François.
Bonsoir.
Allez-y François, on vous écoute.
C'était juste pour vous dire que j'ai 60 ans, donc quand j'étais petit, j'ai déjà habité à Paris de 0 à 10 ans, et à l'époque, on appelait, il y avait un chat dans l'arbre, il y avait ceci, cela, et les pompiers venaient, et c'était super, et ils étaient géniaux. Et maintenant, j'habite juste à 50 km de Paris, dans les Yvelines, et une région plutôt pourvue, enfin, les gens ont des moyens, et il n'y a plus aucun médecin, je n'ai pas de médecin. Et ça fait environ, 15-20 ans, quand j'appelle à 18h30, c'est les pompiers qui viennent, et c'est les pompiers volontaires, y compris pour une mort subite du nourrisson. Et à chaque fois, ils disent on s'est déplacé, on vous emmène aux urgences. Mmh. Et je me dis, trois personnes pour une personne, c'est complètement débile. Mmh. Et à chaque calendrier du mois de décembre, quand il passe, on se fait toujours quasiment la bise, parce que les pompiers me disent on se fait caillasser. Mmh. Et il y a un mec, on a sonné ce matin, il était bourré, et il nous a dit « foutez-moi la paix, je rentre de boîte ». Mmh. Et je me dis peut-être qu'un jour, ils vont vous ramasser sur la route. Donc je dis un grand merci aux pompiers, et qui devraient s'occuper du feu et de temps en temps d'autres choses. Mais ça serait bien que les médecins qui vont gagner 3, 4, 5, 6 fois ce que gagnent les pompiers se déplacent un petit peu après... 18h.
Merci François pour votre question. André Goretti, ça rejoint ce qu'on dit depuis le début de cette émission. En effet, il doit y avoir une meilleure coordination entre SAMU, médecins, urgences, pompiers.
La réponse n'est plus adaptée. Mmh. La désertification médicale y est pour quelque chose. Mmh. Le fait que certains médecins ne souhaitent plus assurer des gardes de nuit ou des gardes de week-end complique énormément la tâche du service qui doit répondre médicalement à un citoyen qui est malade.
Mmh. Il y a une question qui vient de Catherine de Lyon, André Goretti, tiens j'en profite. Comment devient-on pompier professionnel d'ailleurs? C'est une question qui est arrivée notamment après cette histoire de concours. Votre formation, quelle est-elle? Et aussi votre salaire, nous demande Catherine.
Alors d'abord réussir le concours qui est organisé nationalement, avec des épreuves sportives et écrites, et ensuite un oral. Et le salaire de départ aujourd'hui d'un sapeur-pompier professionnel, donc au grade de caporal, est de 1 500 euros approximativement, puisque les régimes indemnitaires complémentaires sont liés à l'appartenance d'un département. Aujourd'hui, il n'y a pas de rémunération complète nationale. Donc, chaque sapeur-pompier d'un département a sa propre rémunération dehors d'un traitement de base.
Avec et c'est l'une de vos revendications, c'est pour ça que je le souligne, avec des astreintes notamment qui durent 24 heures et des heures de nuit qui ne sont pas payées, ça fait partie des choses que vous réclamez aussi.
Nous sommes le seul métier aujourd'hui à qui on impose de travailler 24 heures. Nous sommes le seul métier aujourd'hui qui est confronté, je dirais pas le seul métier, mais qui aujourd'hui est confronté à un risque cancer avéré et où les réponses de nos gouvernants, de nos employeurs sont inexistantes. Voilà, ça fait partie des éléments. Nous sommes aussi le seul métier à être en capacité de répondre dans la minute par rapport à la gestion, à la coordination des appels 18. Tout ça fait que le mouvement conduit à ce qu'il y ait une expression de plus en plus forte, parce qu'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de dialogue.
Olivier Richefou, est-ce que vous pouvez entendre là, ce que dit André Goretti, et notamment sur le manque de reconnaissance de ce métier-là, y compris, on le disait au début, par rapport à d'autres en uniforme? Je pense aux heures de nuit, je pense aux heures d'astreinte, je pense aux primes de risque ou des choses comme ça.
Ça fait partie des sujets que nous avons abordés cet après-midi, puisque pendant près de 3 heures, nous avons eu un dialogue avec les organisations syndicales. Et ça fait partie des sujets sur lesquels j'ai proposé de continuer à travailler, car je crois qu'effectivement, un grand nombre de jeunes, et notamment dans la nouvelle génération, à juste raison, ne sont pas prêts à travailler 24 heures. Mmh. Et que rien n'empêcherait aujourd'hui, et un certain nombre de SDIS ont commencé à mettre en œuvre ces démarches, d'organiser des séquences de travail de 12 heures, qui sont beaucoup plus en lien avec un rythme normal. Et donc c'est un des sujets sur lesquels il nous faut progresser ensemble.
André Goretti, vous avez des enfants ou pas ?
Oui, 4 enfants.
Vous en avez 4. Est-ce que vous leur diriez « fais pompier comme papa » ou pas ? Sérieusement, c'est une vraie question.
Aujourd'hui ? Non.
Voilà.
Non. Mais non, tout simplement parce que le métier exercé est de plus en plus dur. Il est socialement dur, il ne correspond plus au choix que j'avais fait pour accéder à ce métier. Non, tout simplement parce que il est devenu très compliqué, très technique. L'absence de reconnaissance y fait beaucoup aussi. Et que dans l'esprit, quand j'entends Monsieur Richefou qui vous dit que nous avons discuté cet après-midi, c'est totalement faux, puisque la revendication portant sur la revalorisation de notre indemnité de feu a été balayée d'un revers par Monsieur Richefou dans le cadre de soi-disant discussions avec les partenaires sociaux. Donc il y a une évidence, c'est que il n'y a pas d'envie de dialoguer, il n'y a pas d'envie d'avancer par rapport à la dénonciation qui est faite au travers les revendications portées par l'intersyndicale.
Et nous, on a été contents d'entendre en tout cas ce que vous disiez, vous, ce que disent les pompiers et comment les choses se passent. Je voudrais finir, c'est un peu pour vous au fond, Monsieur Goretti, avec Agnès. Bonsoir Agnès.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Agnès, allez-y.
Bonsoir
Agnès. Je vous ai gardé pour la fin Agnès.
Merci de vos émissions, merci de m'accueillir. Alors moi je suis ce qu'on a appelé tout à l'heure une idolâtre des pompiers. Allô.
Ah ben je vous écoute, allez-y, on vous entend.
Je voudrais leur dire toute mon admiration et ma reconnaissance pour leur dévouement, leur courage et toutes les qualités qu'ils manifestent à chaque intervention. Alors, je voudrais faire aussi un mea culpa, parce que lorsque j'ai trouvé ma mère étendue dans le couloir avec le col du fémur cassé, mon réflexe, ça a été d'appeler les pompiers et personne d'autre, pour des raisons d'urgence d'abord, et aussi pour des raisons affectives, parce que le pompier, c'est la personne dévouée, pleine d'attention et de gentillesse, qui vient vous secourir.
Merci.
Et je n'ai pas eu l'idée d'appeler quiconque d'autre.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Agnès. André Goretti, c'est ça aussi que sont les pompiers. Et c'est bien aussi que vous le sachiez et que les gens vous le rappellent, non ? Qu'est-ce que vous en dites ?
Oui, je dis un grand merci. Et nous sommes là pour répondre à ces formes de détresse. Et faut-il pour autant que nos gouvernants et nos employeurs nous donnent les moyens d'assumer toutes ces missions. Le fond du sujet.
Et ce message-là est passé, on aura l'occasion d'y revenir et d'en reparler, y compris parallèlement avec le mouvement des urgentistes qui on l'a entendu tout à l'heure dans le journal, n'est pas terminé. Merci à tous de votre présence dans le téléphone sonne. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci de vos nombreux appels. Comme d'habitude, portez-vous bien.